Voilà le matériel de base. Donc il s'agit du bulbe d'oignon que tout le monde connaît évidemment. Et ce bulbe d'oignon a la particularité d'être formé de feuilles modifiées qui stockent les aliments pour l'hiver. Les oignons, ail, etc. ont la particularité d'être des plantes bisannuelles, c'est-à-dire que la première année, la plante fabrique des réserves, elle les stocke dans des feuilles modifiées qui forment le bulbe, et ensuite ces réserves sont utilisées l'année suivante pour la mise à fleurs et la mise à graines. Et quand vous coupez un oignon, vous voyez évidemment qu'à l'intérieur de cet oignon se trouvent des structures concentriques, ce sont ces feuilles modifiées, chaque feuille prend le nom de tunique. Le terme d'épiderme, cette fois, quand on arrache un de ces éléments, on s'aperçoit que, comme dans une feuille normale, il y a deux épidermes, un épiderme supérieur et un épiderme inférieur. Le supérieur, c'est l'épiderme interne, et l'épiderme inférieur, c'est l'épiderme externe. Donc, j'ai arraché un fragment de ces tuniques, j'en ai tiré... Donc cet élément, la face interne, c'est-à-dire la face creuse, celle où se trouve l'épiderme supérieur, je lui ai donné quelques coups de lame de rasoir pour fabriquer, pour structurer des petits rectangles d'épiderme. Ensuite, j'ai traité cet épiderme avec un colorant. C'est un colorant vital qui s'appelle le rouge neutre. Colorant vital, ça veut dire que ce colorant respecte la vie de la cellule, du moins aux doses où on l'utilise, respecte la vie de la cellule. Donc vous allez observer tout à l'heure des cellules vivantes. Et ce colorant, ce rouge neutre, a la particularité de pénétrer dans la vacuole en lui donnant des couleurs qui évoluent entre l'orangé abricot et le violet éventuellement soutenu. Donc, quelque chose entre rose, violet, abricot, que vous trouverez tout à l'heure placé dans les cellules et qui traduira la présence de la vacuole. Voilà donc le matériel qu'on va étudier aujourd'hui avec le microscope. Le dessin que vous allez en tirer, c'est-à-dire que cet ensemble d'observations que vous allez conduire, va vous donner la possibilité de faire une sorte de synthèse, de conclusion de votre travail. Et cette conclusion ne doit pas être rédigée comme un devoir classique. Vous allez donc dessiner les objets que vous aurez observés sur une feuille de papier dont je vais vous indiquer les conditions. Ah, donc c'est un préambule. Vous avez la possibilité aujourd'hui de dessiner sur le papier que vous avez pu apporter. Mais vous avez probablement noté que sur la petite feuille présentant les besoins pour nos travaux pratiques, on vous demandait d'amener une feuille de papier machine. Alors celle-là est déjà écrite sur une autre face, mais vous faites comme si, il faut beaucoup d'imagination en travaux pratiques, vous faites comme s'il n'y avait rien. Donc une feuille de papier machine 21-29-7, la feuille la plus classique possible, blanche, sans carreaux, éventuellement qui puisse se glisser dans un classeur, donc perforé, il suffit de ne pas dessiner dans les trous, c'est tout simple, avec un grammage, donc une épaisseur suffisante, c'est-à-dire qu'on vous propose d'acquérir des feuilles de grammage 60 ou 80, donc 60 grammes au mètre carré ou 80 grammes au mètre carré. Plus mince, on peut s'en sortir, mais on ne peut dessiner que sur une des faces de la feuille. Plus épais, c'est un peu dispendieux, et puis ça n'est pas nécessaire. Essayez donc de ne pas utiliser de papier à dessin traditionnel dont la surface est rugueuse et qui empêche de faire des dessins précis. On vous demandera, vous, la précision maximum dans le trait, donc un papier lisse se prête bien à cette caractéristique. Qui dit papier dit évidemment crayon de papier qui va avec. Donc ce crayon de papier, vous en avez probablement tous. Il faudrait vérifier que la dureté de la mine corresponde à vos capacités de dessin. On vous suggère plutôt d'utiliser un crayon de dureté HB. Alors ce terme de HB vous est indiqué sur le crayon quelque part, probablement vers l'extrémité, sauf si vous les achetez par botte de sang, auquel cas il est vraisemblable que ça ne soit pas précisé. Si vous achetez des crayons de qualité, la dureté est toujours indiquée. Donc HB, c'est une valeur moyenne, ni trop dur, ni trop mou. Mais si vous avez d'autres habitudes, vous pouvez les conserver, pour autant que votre dessin corresponde à ce qu'on exige. Vous pouvez également utiliser un critérium, c'est-à-dire un crayon de papier avec une mine rétractable. Enfin, ça, vous vous arrangez comme vous voulez, pour autant que vous puissiez dessiner avec. Souvent, les mines sont extrêmement minces dans les critériums. Et personnellement, j'arrive pas à dessiner au critérium. La mine explose constamment. Donc, si vous avez un crayon de papier ou si vous avez un critérium, vous serez amené quelquefois à tailler cet instrument. Il vous faut donc un taille-crayon. Un taille-crayon, ça fait des épluchures. Ne mettez pas les épluchures sur la table, ni plus sournoisement sous la table. Il y a des poubelles pour ça. Pensez au personnel de ménage. Évidemment, ils sont là pour nettoyer, mais ce n'est pas une raison pour leur faire du travail. Donc, pensez à tailler vos instruments de travail et à jeter les déchets dans la poubelle. Qui dit dessin au crayon dit éventuellement erreur de dessin, donc il faut pouvoir gommer. Pensez, là aussi, à utiliser une gomme en bon état, pas un tout petit morceau de gomme, une gomme fraîche, quelque chose qui date de l'année dernière, par exemple. Si vous utilisez la gomme que vous aviez en sixième, elle a sûrement perdu beaucoup de ses qualités. Et quand on essaie de gommer avec des gommes qui ne vont pas, on traîne le graphite sur la page et ça ne rend pas, évidemment, les services qu'on espère. Avec cette panoplie, donc le crayon, le taille-crayon et la gomme, vous avez les instruments, plus la feuille de papier, bien sûr, vous avez tous les instruments pour faire ce compte-rendu final. Le petit chiffon dont Bernard a probablement parlé tout à l'heure vous permet d'éponger les quelques gouttes que vous pourriez mettre sur la paillasse ou sur la platine du microscope. Le dessin que vous allez faire doit être donc la synthèse de ce que vous avez vu. Et on vous suggère fortement de ne pas vous contenter des images que propose votre microscope à vous. Vous avez tout intérêt à travailler avec les voisins, voisines et éventuellement à vous déplacer dans la salle pour aller voir chez celui-ci ou celle-là quelque chose qui serait un peu plus démonstratif que ce que vous avez pu obtenir vous-même. On vous propose également des images sur l'écran vidéo qui se trouve ici, des images qu'on commente pour tout le monde simultanément et qui correspondent grosso modo à ce que vous voyez bien sûr. Vous avez la possibilité, pour autant que personne ne soit installé derrière le microscope de démonstration qui se trouve sur la paillasse là devant, vous avez la possibilité de venir vous installer et de regarder tranquillement l'image, qui est toujours meilleure, bien sûr, quand on la regarde en direct, plutôt que transformée par la télévision. Hein. On sait que la télévision modifie pas mal la réalité. Hein, c'est valable tous les jours, y compris dans ce microscope-là. Donc la qualité de l'image est nettement supérieure quand on regarde directement dans le microscope, plutôt que quand on se contente de l'image vidéo. Donc pensez à multiplier vos chances d'observation de qualité en regardant ce que vous obtenez, mais aussi ce qu'obtiennent les autres. Ce travail en commun est, à notre avis, nécessaire. On vous le recommande en première année. On vous imposera de trouver un binôme l'année prochaine. Vous serez obligé de faire des manips, ou en tout cas des actions de travail à deux, à trois, à quatre, éventuellement plus. Donc prenez... Choisissez cette circonstance pour essayer de tester, entre guillemets, un binôme cette année avec quelqu'un avec qui vous vous entendez pas trop mal. Ça peut changer en cours d'année, ça c'est pas mon affaire. Mais quelqu'un avec qui vous avez le sentiment de travailler en harmonie, quelqu'un qui ne vous suce pas l'information sans travailler lui-même. Donc, travailler en groupe, c'est une bonne chose, ça permet de comparer des points de vue, ça permet de comparer des interprétations, ça permet éventuellement de je veux dire corriger, hein, Bernard en a un peu parlé tout à l'heure, corriger le dessin du voisin ou se faire corriger le sien par le voisin. Il n'y a que le jour de l'examen que vous n'avez pas le droit de communiquer avec les autres. C'est naturel. Mais en salle de travaux pratiques, on vous recommande plutôt les échanges que le travail purement personnel et ne s'intéressant pas à ce que fait le voisin. Ce travail de synthèse doit faire appel à l'imagination, mais aussi à la rigueur. À l'imagination, parce que vous verrez que la plupart du temps, les images que fournissent le microscope sont des images pas trop faciles à interpréter. À la rigueur, parce que vous ne devez pas, dans l'interprétation, donner dans la fantaisie. Je vous ferai plusieurs recommandations à partir des images qu'on voit sur l'écran tout à l'heure. Un certain nombre d'objets que l'on voit sont des aberrations lumineuses. Il ne s'agit pas de les dessiner ou de prendre ou de perdre du temps pour les dessiner, ces aberrations. Par contre, d'autres sont des informations qui sont utiles. Et celles-là, il faudra en tenir compte, et de celles-là uniquement. Ce travail de synthèse est donc fatalement un travail final. Ne commencez pas la séance de TP tout de suite en dessinant la première cellule que vous avez sous les yeux, sauf vraiment si elle est tellement superbe que vous ne pouvez pas imaginer en trouver une mieux, bien sûr. Donc une synthèse, ça se fait toujours après un repérage, une connaissance préalable, une analyse du document que vous avez sous les yeux. Cette synthèse, elle se fera aujourd'hui grâce à un certain nombre d'informations que je reproduirai au tableau. Donc je mimerai, entre guillemets, le travail que vous avez à faire. La semaine prochaine, vous aurez beaucoup plus d'indépendance. Et en même temps, il faudra, à ce moment-là, mettre en œuvre vos capacités de travail à vous. Bernard a dit aujourd'hui qu'on vous mâchait le travail. C'est normal, on va vous montrer ce qu'on exigera de vous. Et c'est après à vous de jouer votre propre carte. Alors, pour la pratique pure et dure de la manip, vous allez tout à l'heure venir avec une lame sur laquelle vous aurez posé une goutte d'eau. C'est dans cette goutte d'eau qu'on placera le petit fragment d'épiderme végétal à étudier. Ensuite, vous couvrez d'une lamelle. Bernard, tu leur as indiqué comment on pratiquait. Bon. Donc, vous couvrez d'une lamelle et vous passez à l'observation. Il est possible que la préparation que vous avez réalisée à l'instant soit de qualité médiocre, pour ne pas dire pire. Ça veut dire qu'en général, quand ce n'est pas bon, quand on ne voit rien à travers, sachant que vous avez l'obligation de voir quelque chose pendant le temps où vous êtes dans la salle, soit vous vivez au crochet, entre guillemets, de votre voisin ou voisine, en essayant de voir de temps en temps aussi dans son microscope ce qu'il faudrait voir dans le vôtre, soit plus normalement, vous faites une nouvelle préparation. Cette nouvelle préparation devrait logiquement, après un premier essai, vous donner satisfaction. Donc n'hésitez pas à recommencer, vous êtes là pour apprendre à travailler, donc c'est une bonne manière que d'être assez exigeant sur la qualité de l'observation qu'on vous réclame. Plus belle est la préparation, mieux, logiquement, vous allez vous en sortir. Alors, beaucoup d'entre vous ne savent pas très bien dessiner. Et le très bien pourrait être enlevé de mon laïus facilement. En effet, il est peu commun que les élèves au lycée fassent du dessin, et très rare que les gens prennent le dessin en option au bac. Il est d'ailleurs possible qu'il n'y en ait pas dans la salle. Bien. Donc, nous ne sommes pas en cours de dessin. Ce qu'on va vous demander, donc, c'est de tracer uniquement des traits limitant des structures. Pas d'ombre, pas de grisé, pas de hachure, pas de pointillé, pas de couleur. Tout ce que vous allez représenter sur votre feuille de papier, ce sont des traits. Des traits qui serviront, bien sûr, au dessin, mais également à la rédaction. Votre nom, le titre, les annotations, etc., tout ça également doit être écrit au crayon de papier. En général, les gens écrivent, disons, relativement lisiblement. Il y a les autres. Ceux qui écrivent mal en général, et qui le savent, feront l'effort d'écrire comme moi en script, c'est-à-dire une écriture qui prend plus de temps, c'est plus laborieux. On sépare toutes les lettres, si possible, mais ça permet d'avoir une écriture lisible pour tout le monde. Comme vous aurez peu d'informations à apporter sur la feuille de TP, vous pouvez passer 10 minutes à rédiger correctement les quelques annotations qu'on vous réclame. Le jour de l'examen, évidemment, quand il s'agit d'écrire à partir de ces idées, c'est plus difficile. Donc vous écrivez de votre manière à vous, et c'est à l'enseignant, évidemment, d'essayer de traduire quelquefois. Mais si vous êtes ici en TP, vous avez le temps de rédiger soigneusement. Essayez en même temps de ne pas faire de faute d'orthographe. Vous ne serez pas sanctionné là-dessus, bien sûr. Mais ça paraît toujours agaçant de trouver des fautes énormes dans des noms, quelquefois, de la vie commune. Évidemment, quand c'est un nom compliqué avec des Y et des H un peu partout, sauf avoir fait du grec qui permet de comprendre pourquoi le H et le Y sont ici, on acceptera des fautes. Mais dans des noms communs, essayez quand même de faire un petit peu attention. Donc, écrire lisiblement et, si possible, sans faire de faute. Même si ces choses-là ne retentiront pas sur la note que vous allez avoir. Ensuite, la présentation du dessin. C'est très important. Il ne s'agit pas, évidemment, de rendre un torchon à la fin de la séance. Vous devez avoir pensé votre document. Ça veut dire que la présentation est la plus flatteuse possible. Si tout est très bien présenté, mais entièrement faux, vous aurez zéro. Ce n'est pas le principe de la publicité, là. Il ne faut pas que ça soit creux. Donc si c'est bien présenté, mais que ça ne vaut rien, vous aurez zéro. Si c'est très mal présenté et que tout est juste, vous aurez une note potable. Donc essayez d'avoir tout juste et de présenter le plus agréablement possible, et vous aurez la note maximum ou pas loin. Alors comment on fait pour présenter un document tel que celui qu'on vous réclame? Vous avez un petit schéma là qui correspond à la séance d'aujourd'hui. Dans d'autres circonstances, les choses peuvent être différentes. Donc sur votre page, vous mettez évidemment en haut, n'importe où, dans le bandeau supérieur, en haut, à droite, au centre, à gauche, comme vous voulez, votre nom, votre prénom, votre groupe. Ça nous permet de retrouver facilement votre trace. Vous pouvez noter la date et d'autres informations si vous le souhaitez, pourvu que ça ne tienne pas trop de place. Ensuite, il faut impérativement un titre qui doit être explicite. Ce titre, vous pouvez l'écrire peut-être en majuscule, ou l'encadrer, ou le souligner. Il ne faut pas forcément tomber dans le travers de l'enluminure. Ne passez pas trop de temps quand même à rédiger un titre avec des lettres tarabiscotées. Ce qu'il faut, c'est que le lecteur de votre document sache de quoi il s'agit. Quand vous allez au cinéma ou quand vous achetez un bouquin, fatalement, le titre vous attire. Là, c'est la même chose. Il faut que le lecteur sache de quoi il s'agit. Ensuite, vous laissez le maximum de place pour le dessin. C'est ça qui nous intéresse. Il nous faut votre nom et le titre, évidemment, mais la suite fait la nôtre. Vous laissez donc le maximum de place pour ce dessin et vous vous débrouillez pour faire une mise en place du dessin qui soit la plus harmonieuse possible. On verra qu'aujourd'hui, les cellules qu'on va observer sont plutôt longues. Elles sont entre 4 et 10 fois plus longues que larges. Il est donc logique de concevoir que la cellule que vous allez choisir de dessiner soit présentée dans la longueur de la page. D'un point de vue purement mise en forme, ça paraît évident. Ceux qui ne peuvent pas transformer une image oblique vue dans le microscope en une image redressée sur la feuille de papier, il y a un truc, il suffit d'incliner la feuille de papier sur la paillasse dans le plan idéal et vous la dessinez donc de travers, cette cellule, et il suffit de ramener la feuille dans le plan normal, entre guillemets vertical, pour avoir une image conforme à celle qu'on vous réclame. Celui qui dessinera une cellule de travers ne sera pas évidemment sanctionné. Il s'agit d'un travail de présentation. On vous demandera de dessiner à l'économie, un peu comme les rapaces, pas à l'économie d'intelligence, mais à l'économie de moyens. C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner 3 ou 4 ou 5 cellules, qui seront fatalement toutes relativement semblables, on vous demande d'en dessiner une seule. Au lieu de dessiner des noyaux un peu partout, Il suffira d'en faire une ou deux représentations, ça sera largement suffisant. C'est-à-dire que tout ce qui est répétitif, tout ce qui est déjà dessiné, vous n'êtes pas obligé de le refaire à côté. Ça vous prend du temps et ça vous conduirait potentiellement à faire une erreur d'interprétation si vous en mettez trop. Cette erreur d'interprétation, elle vous sera coûtée. C'est-à-dire que même si la cellule principale, entre guillemets, que vous dessinez est juste, si celle d'à côté est fausse parce que vous l'avez dessinée pour vous passer le temps, celle qui est fausse va entraîner la chute de la note. La première est juste, bien observée, la deuxième est inventée, malheureusement elle a été mal interprétée et vous dégringolez. Donc l'économie de moyens, mais pas l'intelligence. Sachez juger de la valeur de votre représentation. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez solliciter le voisin ou la voisine pour voir s'il a fait la même chose que vous. Si c'est la même erreur, évidemment, vous ne pourrez pas vous en apercevoir, mais on ne sait jamais. Sinon, vous nous demandez si on est à peu près d'accord. On circulera dans les rangs tout à l'heure. De temps en temps, on s'arrêtera peut-être pour vous montrer à quel endroit vous avez fait une erreur plus ou moins importante. Ces erreurs peuvent être manifestes, hein, des erreurs de topologie, par exemple, où vous placez le noyau mal à propos. Ça peut être aussi une erreur dans les annotations. Donc, pensez à bien vérifier votre travail. À la fin de la séance, vous devriez avoir normalement une présentation qui ressemble à celle-là avec les annotations conséquentes. Ces annotations servent évidemment à caractériser les objets que vous avez dessinés. Ces annotations doivent être écrites, je l'ai dit tout à l'heure, au crayon de papier comme le dessin lui-même, et vous avez tout intérêt à tirer une flèche de référence en direction de l'objet que vous voulez montrer, décrire, une flèche de petite taille, je ferai quelques dessins tout à l'heure, quelque chose qui soit clair, précis, mais qui ne prenne pas toute la place. Pensez aussi à organiser, en ayant laissé une marge autour de votre dessin, pensez à organiser l'information. Vous voyez que sur la présentation que j'ai choisie ici, on a deux marges faciles à exploiter, une à droite et une à gauche de la feuille de papier. Si vous installez la cellule dans l'autre sens, il y a une marge au-dessus, une marge en dessous, qui sont quelquefois un petit peu trop importantes, qui restent du papier blanc, et en général, je fais un rond et j'écris « vide », point d'exclamation. C'est-à-dire que dans la présentation d'une page, quand il y a un gros trou blanc, c'est agaçant. On coupe des arbres pour faire du papier, donc si vous l'exploitez correctement, intelligemment, ça aura donné une bonne raison à quelqu'un de le couper, cet arbre-là. Par contre, si vous gaspillez ce matériau, vous engagez d'une certaine manière votre responsabilité là-dedans. Donc, pensez à dessiner tranquillement. Si vous avez fait une erreur, ne roulez pas la feuille de papier en boule. Un petit coup de gomme devrait suffire à remettre les choses en état. Essayez de gaspiller le moins possible de matériel. Un aspect vraiment social, mais si vous commencez... Évidemment, maintenant, à jeter tout ça à la poubelle facilement, vous risquez des problèmes dans les années qui viennent. Alors, vous allez donc pouvoir venir récupérer ces petits fragments d'épiderme. La condition, donc, c'est de venir récupérer sur la paillasse, je pense que Bernard vous a montré un peu comment étaient organisés les lieux, sur la paillasse qui se trouve donc derrière l'écran de télévision. Vous récupérez une lame, vous vérifiez bien sûr qu'elle est à peu près en état, si elle est fendue, écaillée, sale. Si elle est fendue, vous l'achetez à la poubelle. Si elle est sale, vous l'abandonnez, on essaiera de la nettoyer plus tard. En même temps, vous allez voir un bocal, alors peut-être que Bernard fera un deuxième atelier, entre guillemets, distribution, dans l'autre nef. Donc vous allez ensuite récupérer dans un bocal, ici il y a de l'eau, vous trempez un doigt de telle manière qu'il soit largement mouillé, et cette goutte qui va pendre au bout du doigt, vous la posez au milieu de la lame. Il faut que la goutte soit plutôt copieuse. En effet, si elle est un petit peu juste, le fragment qu'on va poser à l'intérieur ne mouillera pas complètement, et quand vous placerez la lamelle par-dessus, vous aurez une bulle d'air qui va se loger exactement à l'endroit de l'observation. C'est la loi de Murphy, hein, qu'on appelle encore la loi de l'emmerdement maximum. C'est celle qui veut que la tartine tombe toujours du mauvais côté. Donc la bulle d'air, immanquablement, c'est sur l'objet que vous allez observer qu'elle se logera. On peut s'en sortir en la chassant vers le dehors. En appuyant avec le dos d'un crayon, par exemple, on arrive à en évacuer au moins une partie. Mais si la goutte a été suffisante, vous ne devriez pas avoir ce type de problème. Alors, comment on pose la lamelle par-dessus ? Alors, ces lamelles sont extrêmement minces. Vous veuillez déjà à n'en prendre qu'une. Hein, c'est facile d'en attraper deux, tellement elles sont minces. Alors, évidemment, vous ne la verrez pas depuis le fond de la salle. Hein, c'est fait pour être mince. Voilà, la manière de la tenir, c'est par les bords. Ne l'attrapez pas à plein doigt, vous allez mettre des empreintes digitales instantanément à la surface, ce qui n'est pas forcément gênant, mais enfin, ça peut troubler éventuellement l'observation. Donc vous la tenez par les bords et vous la posez sur la lame à peu près à 45 degrés. Vous l'amenez au contact de la goutte d'eau que vous y aviez déposée et tout doucement, vous laissez descendre cette lamelle. Si vous descendez doucement, la goutte d'eau va coller à la lamelle et elle va chasser progressivement la bulle d'air vers l'extérieur. Si la lamelle tombe brutalement, même si la goutte a été copieuse, vous risquez d'avoir une bulle d'air. Et là, on peut encore s'en sortir en appuyant avec le dos d'un crayon, etc. Si la goutte a été un petit peu trop chargée, vous en soutirez un peu avec un petit papier absorbant. Donc vous posez le papier absorbant sur le bord de la lamelle et par capillarité, l'eau va filer vers le papier. Donc vous en soustrayez une partie entre la lame et la lamelle, et ça vous permet d'avoir une observation tranquille. Parce que quand vous bougez la lame, si la lamelle flotte comme un bateau à la surface de l'eau, c'est que vraiment la goutte était trop importante. Voilà, donc le travail qui vous attend est celui du montage de la préparation. On vous distribue aujourd'hui les fragments. La semaine prochaine, vous aurez à les récupérer, au moins pour partie, à les récupérer vous-même, avec les pinces dont Bernard vous a parlé. Tu as parlé des pinces, Bernard, oui ? Il rêve. Oui, tu as parlé des pinces, oui. Donc, ça sera à vous, la prochaine fois, d'être beaucoup plus... de travailler beaucoup plus efficacement. Hein ? Là, on va vous arranger au maximum le travail. Donc, vous prenez une lame, vous mettez une goutte d'eau, vous vous présentez pour qu'on vous donne le fragment, vous couvrez d'une lamelle et vous allez donc passer à l'observation. Le microscope, normalement, bon, vous l'avez un peu tripoté tout à l'heure, donc il est possible que la tourelle ait été changée. Vous devez commencer l'observation avec l'objectif 10 fois, c'est-à-dire celui qui a un anneau jaune. Vous mettez donc la tourelle des objectifs. Vous la tournez de telle manière que cet objectif 10 fois soit en place. Ça va vous permettre d'engager la préparation très loin de la surface frontale de l'objectif. C'est-à-dire que vous allez la glisser facilement en place. Avec des objectifs puissants, l'objectif regarde la préparation très près. Donc si le réglage a été mal fait, vous risquez de buter dans l'objectif. Donc avec ce 10 fois, vous avez une certaine garantie de glisser la préparation sans problème. Ensuite, le microscope étant allumé, bien sûr, vous tournez les deux petites molettes qui permettent le déplacement du chariot de telle manière que vous ameniez le fragment à étudier sous le microscope, sous l'objectif. Dans une séance d'avant-hier, quelqu'un se plaignait de ne rien voir. Évidemment, la préparation n'était pas sous l'objectif. Donc c'était légitime de ne rien voir. Donc pensez à ça, vous mettez en place, vous faites la mise au point et vous faites une prospection générale de votre préparation. Si tout est bon, pas de problème. Si des secteurs sont défectueux pour des raisons diverses, ce n'est pas là que vous chercherez votre information. Mais une fois que vous avez trouvé la plage qui vous plaît, c'est là que vous pourrez passer un grossissement plus fort. Donc pensez à travailler de manière méthodique. À commencer par le commencement, c'est-à-dire le plus faible objectif, et à terminer avec le 40 fois. Ne cherchez pas, c'est une recommandation, ça n'est pas une obligation, hein, vous pouvez tenter votre chance, mais ne cherchez pas à utiliser l'objectif à immersion, c'est-à-dire celui qui a un anneau blanc, dont Bernard vous a parlé tout à l'heure. cet objectif à immersion ne travaillera pas dans les conditions de cette manip, normalement, il doit, pour bien fonctionner, être en liaison par la goutte d'huile avec la préparation. Or, ça n'est pas possible avec le type de manip d'aujourd'hui. D'autre part, comme vous avez encore une pratique du microscope un peu juste, vous risquez de passer à travers la préparation ou d'écraser la préparation, éventuellement de salir, voire même de rayer la lentille frontale de cet objectif. Donc, abstenez-vous, sauf les vraiment curieux, abstenez-vous de cette expérience. Vous aurez l'occasion plus tard d'utiliser correctement cet objectif à immersion. Ensuite, à partir de ce que vous voyez, ça vous dit quelque chose ou rien. Si ça vous dit rien, peut-être que la préparation est très mauvaise. Vous vérifiez chez les voisins s'ils ont la même chose. Alors, quelquefois, vous êtes déçu, vous dites « Oh, c'est pas terrible ». En regardant chez le voisin, vous voyez que c'est la même chose, donc ça devrait vous réconforter. Par contre, si par rapport aux images que je vous proposerai sur l'écran, vous avez vraiment quelque chose de très différent, il faudra probablement recommencer. Ça veut dire que votre préparation était roulée comme un cigare, donc vous avez plusieurs épaisseurs de cellules empilées et non pas une seule couche.